Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Ce lundi 14 octobre, Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison par un tribunal de Moscou. Le chercheur français a été reconnu coupable de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Verdict extrêmement sévère, mais malheureusement attendu, tant la justice russe est réglée comme du papier à musique. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors la notion d'agent de l'étranger en Russie, tu nous l'as déjà expliqué dans un épisode précédent, mais tu voulais revenir cette fois sur, je dirais de façon plus générale, le fonctionnement de la justice russe. Tu es encore allé cette semaine t'asseoir sur les bancs, pas des accusés, mais bien du public, dans un tribunal de Moscou. Tu m'as déjà expliqué que, en fait, c'était l'un des rares endroits où un journaliste étrangers pouvaient entrer, sortir sans aucun problème. Je voudrais que tu me dresses un petit peu déjà le décor d'une salle d'audience quand tu arrives à Moscou, scène de la vie quotidienne.
Oui, alors c'est assez étonnant. Alors les tribunaux russes, c'est quelque chose qui me frappe, ils sont minuscules. Par exemple, il y a un tout petit tribunal dans le centre de Moscou qui est celui qui traite les affaires les plus importantes, notamment celles des terroristes de la salle de concert du Crocus qui ont fait l'attentat de mars dernier. Et en fait, tu te retrouves dans une salle dans laquelle il y a la place pour les détenus, les avocats, la cour. Et puis, il y a en gros 5-6 places, parfois une dizaine de places pour la famille et les proches, et les journalistes. Donc, et ce sont à chaque fois des vieilles pièces avec des meubles en bois, une justice très froide, je te laisse l'imaginer. C'est intéressant de voir les juges, souvent des femmes, procureurs aussi, assez régulièrement des femmes, qui ont le visage et le style de ces très riches moscovites qu'on retrouve en périphérie de Moscou, dans les quartiers fermés avec les grandes villas. Tu vois que ce sont des femmes très maquillées, très apprêtées, qui souvent ont dû faire usage de chirurgie esthétique. Tu vois les grosses voitures sur le parking. Tu vois à peu près dans quel monde, quel milieu on se trouve, qui, sans ne les accuser de rien, généralement est un milieu de gens corrompus, soit dit en passant. Et donc c'est un décor assez particulier avec à côté des policiers qui sont très froids, qui partent du principe que tous les gens qui viennent dans ces salles d'audience sont des ennemis. Et pour cause d'ailleurs, il y a très peu de gens qui ressortent libres des tribunaux russes. Hein. Je me rappelle plus du nombre exact parce que je mélange tout le temps avec la Biélorussie. Je crois que la Biélorussie c'est 98% des gens qui sont jugés, qui sont condamnés par la suite. Il me semble que la Russie a 1 ou 2% en moins. Mais en gros, quand on se retrouve devant un juge en Russie, c'est trop tard. On sait qu'on va être condamné. Voilà, donc pour moi, c'est très intéressant de voir ce genre d'ambiance. J'ai assisté notamment à un procès avec des journalistes qui sont accusés d'avoir discrètement donné certaines de leurs images aux proches d'Alexei Navalny à l'époque où celui-ci passait devant les tribunaux. C'était intéressant de voir aussi, par exemple, l'arrivée de la procureure qui arrive encadré par 2 militaires cagoulés, surarmés, comme si c'était par exemple une audience pour une mafia et qu'il fallait absolument protéger la procureure, alors que là on parle de jeunes journalistes qui tentent de défendre la liberté de la presse en Russie. Et eux-mêmes, c'est intéressant de voir que quand ce sont des cas de prisonniers politiques, depuis quelque temps, je remarque qu'ils sont escortés vers la salle d'audience avec des chiens. Il y a un policier avec son chien qui menace le public au passage et qui vraiment colle ces prisonniers politiques. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de montrer que ce sont des extrémistes, que ce sont des terroristes. Donc voilà un peu l'ambiance. Et je rajouterai un petit point parce que j'ai des connaissances qui, notamment une connaissance à l'ambassade de France à Moscou, qui est amenée parfois, souvent, à aller assister à des audiences. Et en fait, ces derniers jours, ça m'a permis de parler un peu avec tous ces diplomates étrangers parce que je sais pas si on le sait, mais il faut peut-être le raconter, mais les diplomates étrangers choisissent parfois des cas, des affaires de prisonniers politiques et décident de leur apporter leur soutien. Généralement, ils se concertent avec la famille avant, parce que c'est aussi parfois pour les autorités russes de l'or, quoi. Ça leur permet de confirmer que ces gens sont manipulés par l'étranger, sont liés à l'étranger d'une façon ou d'une autre. Mais dans certains cas désespérés, généralement les cas sont désespérés quand ce sont des prisonniers politiques, certaines ambassades, eh bien, décident de venir y assister. Alors, par exemple, il y a un poète dont le nom de famille est Kamardine, qui a été condamné il y a 10 jours et qui a été qui a fait l'objet d'un soutien de la part de l'ambassade des États-Unis à Moscou, de la part de l'ambassade de France, de la part de la représentation de l'Union européenne qui avait envoyé quelqu'un. Et donc, nous, journalistes, on entre quasiment aussi facilement que ces avocats, que ces diplomates dans les salles d'audience. Et on se retrouve à pouvoir y assister. Et c'est aussi une façon de montrer que les gens qui sont jugés ne sont pas seuls, que des gens prêtent attention à ce qui se passe dans le tribunal. Et je préciserai rapidement que, se dit en passant, quand la diplomate américaine se déplace dans les tribunaux, et ben elle est toujours suivie par des policiers en civil, ce qui est une particularité des diplomates américains. Et donc, lors d'un des procès, je me suis retrouvé avec donc tous ces diplomates et ces deux hommes en civil qui faisaient les vidéos, qui faisaient les photos, qui l'ont suivi de son arrivée jusqu'à la sortie du tribunal et qui, entre-temps, pendant l'audience, s'ennuyaient, se sont endormis sur leur téléphone. C'est assez intéressant de voir comment tout ce petit monde répressif fonctionne au quotidien.
Alors là, tu m'as expliqué le côté à la fois grillé et pittoresque de la salle d'audience, mais il y a un endroit particulier qui est le box des accusés. En général, quand ces accusés arrivent, c'était le cas de Laurent Vinatier, ils sont déjà en détention depuis plusieurs mois. L'image que l'on a à leur arrivée dans le box, derrière dans une espèce de cage, ne correspond pas forcément à la photo d'eux dans la vie civile. Ils ont eu les cheveux coupés, si ce n'est rasés. Explique-moi, par expérience et pour avoir vu tous ces procès, le parcours, est-ce qu'on est vraiment dans l'idée de l'aveu, je dirais, le livre d'Arthur London, le film de Costa Gavras, cette machine à broyer?
En fait, c'est fascinant de voir ces images dont tu parles, de ces gens derrière ces vitres, parce qu'ils sont systématiquement souriants. T'as l'impression qu'ils sont, ils sont contents d'être là, dans le sens où c'est un des rares moments durant lesquels ils peuvent voir leurs proches, au passage. Mais surtout, tu sais, tu comprends, j'en ai déjà parlé avec des gens qui ont vécu ça, qu'ils ont réuni de la force pour pouvoir apparaître souriant devant les caméras, devant les juges, à l'audience, tout en étant potentiellement détruits psychologiquement. Il y a quelque chose qui est super important aussi à remarquer, c'est que de plus en plus, les audiences, alors les détenus ne sont plus déplacés en fait. C'est-à-dire qu'on connaît ces images de ces détenus derrière les vitres, mais de plus en plus on favorise les interventions par visioconférence. Donc c'est assez terrible parce qu'on les voit derrière les barreaux, dans leur prison, parfois dans des cages vraiment minuscules. Hein. Ils sont parfois le dos tordu pendant plusieurs heures et on n'entend quasiment rien. C'est-à-dire que là, j'ai assisté à une audience récemment où les proches ont demandé à les faire venir, à reporter l'audience pour pouvoir les faire venir dans la salle de tribunal. La juge a refusé en disant « Mais non, mais moi j'entends très bien, il m'a dit qu'il entendait, donc il n'y a aucun problème. » Mais dans les faits, eux n'entendent pas grand-chose, nous on n'entend pas grand-chose. Et finalement, le tribunal s'en fiche, parce que de toute façon, on comprend que les choses sont jouées d'avance. On comprend, et ça on le ressent beaucoup dans les affaires de prisonniers politiques, qu'il y a un mépris total de la part de la Cour. C'est-à-dire que pour eux, les gens qui sont poursuivis, comme le public qui vient assister à ces audiences, sont des traîtres à la patrie, sont des ennemis de la patrie. Et donc finalement, tout le monde est un peu traité comme des ennemis. Là, récemment, il y a un policier qui nous a hurlé dessus en lui disant « Éloignez-vous de la porte ». Et en fait, tout le monde a rigolé, donc lui a ri au nez. Et lui a recrié en disant « Mais pourquoi vous rigolez ?» Et les gens lui ont expliqué « Mais vous comprenez, c'est pas la peine de hurler sur les gens de cette façon-là, en fait. » Et en fait, ce sont vraiment deux mondes qui s'opposent et qui se confrontent lors des audiences, où t'as cette justice droite, dure, qui est la main, en fait, du Kremlin pour réprimer l'opposition, face à des gens normaux qui se retrouvent face à une justice qui n'a plus rien de juste, hein, pour ce qui est des affaires, en tout cas, de prisonniers politiques ce sont pas les juges qui décident des peines, ou quand c'est le cas, ils comprennent bien qu'ils sont obligés de les prendre dans une certaine direction, leurs mesures, leurs décisions. Et donc voilà, c'est un moment intéressant pour ça, parce qu'on voit physiquement, de nos yeux, la répression russe toucher quelqu'un.
Quand tu dis que ce ne sont pas les tribunaux qui décident très précisément, est-ce que tu saurais m'expliquer comment ça se passe ?
Oui, j'ai un exemple fou, justement, dans une des audiences, c'est pas la première fois que je vois ça. Le jeune homme dont je parlais, Artyom Kamardine, j'avais oublié son prénom tout à l'heure, c'est un poète, un jeune poète qui a une bonne vingtaine et qui est condamné, donc qui vient d'être condamné pour 8 ans de prison pour avoir récité un poème avec un ton anti-guerre sur une place de Moscou il y a maintenant 1 an et demi. Problème, c'est que, alors il y a une petite vidéo qui a été diffusée sur Internet et qui représente une preuve pour le tribunal, mais c'est à peu près tout ce que le tribunal avait pour juger. Il y a deux témoins mystères que personne n'a jamais vus qui ont mis une déposition dans le dossier. Et c'est là que c'est aussi drôle que triste, parce qu'en fait, ils ont des noms d'Américains, ces témoins mystères. C'est-à-dire qu'il y a un Mike, je me rappelle plus du second, mais en gros, c'est du même style. Genre Mike et Jordan, un truc comme ça. Et d'ailleurs, c'est même peut-être ça, parce qu'on se demandait à quelle référence quelle référence il y avait dans le choix de ses prénoms, parce qu'en gros, on comprend que le FSB ou les services de lutte contre l'extrémisme, qui sont un des services dédiés à l'opposition politique, ont inventé des témoins, ont inventé des noms américains. Donc c'est toujours un peu l'idée de montrer qu'à ce rassemblement, il y avait des étrangers, des Américains. C'est toujours l'idée de les ramener vers le côté espion, agent de l'étranger, lié à un pays ennemi. Il y a toujours cette tendance. Et donc la justice s'est basée en grande partie pour pouvoir condamner ces jeunes hommes. Il y a celui qui a prononcé ce poème qui a été condamné, mais aussi quelqu'un qui est accusé d'avoir applaudi. Donc personne n'est vraiment sûr qu'il ait applaudi, mais il a quand même été condamné. Ces jeunes hommes, ils ont été condamnés, notamment sur la base de faux témoins inventés par le FSB, en tout cas par les autorités, qui donc voulaient en faire un exemple et voulaient les punir. Donc c'est notamment avec ce genre de détails qu'on retrouve dans les dossiers qu'on comprend qu'il y a volonté de condamner dès le début. Sachant que je le précise au passage, l'Artyom en question qui a été condamné, il s'est fait tabasser lui et sa femme par la police pendant la perquisition. Il a été violé pendant la perquisition. C'est évidemment d'une violence extrême quand on s'en prend à des prisonniers politiques. Et ensuite, ce qu'on voit, il suffit de suivre les audiences, c'est que chaque demande de la part de la défense de ces jeunes hommes, est refusé à chaque fois, même les demandes les plus banales. En fait, généralement, les prisonniers politiques ont des problèmes de santé assez rapidement une fois qu'ils sont envoyés en prison. On leur refuse l'accès à des médecins audience après audience. Et donc, on comprend progressivement que la justice est vraiment engagée avec la police, avec le FSB, dans une volonté d'écraser, de broyer ces personnes, ces jeunes, généralement, dans les prisons. Et je te préciserai aussi quelque chose. Il y a l'histoire de notre confrère Ivan Gershkovitch qui a été libéré cet été. Il se trouve que le juge qui l'a condamné a raconté l'histoire héroïque de cette condamnation dans la presse, parce que lui, il est vraiment fier d'avoir condamné un espion américain, puisque Evan, journaliste, avait été condamné pour espionnage. Et quelqu'un lui a posé la question, où il est venu de lui-même, a expliqué que le dossier était gigantesque, mais qu'il l'a lu en quelques heures. Et en fait, il a dit « J'ai pas vraiment besoin de le lire, de toute façon, je comprenais l'affaire ». Je savais ce qu'il fallait faire, en gros, quoi. Il a dit peut-être un peu plus subtilement que ça, mais il a vraiment dit, j'avais de toute façon pas le temps de tout lire, donc j'ai lu les choses très rapidement. Et donc, on comprend que de toute façon, il a reçu ses ordres d'ailleurs et que c'est pas quelqu'un qui a jugé de façon impartiale ou en tout cas de façon honnête cette situation, bon, qui pour le coup était assez, d'une façon assez évidente, liée aux autorités russes.
Dans cette salle d'audience, il manque encore une personne, c'est le compagnon ou la compagne ou la famille du détenu. Explique-moi l'immense difficulté de ces personnes-là, la femme du poète dont tu m'as parlé par exemple, au moment du procès et après. Ça doit être absolument terrible.
Oui, c'est très dur à vivre. Alors déjà, il y a un objectif principal quand votre compagnon, votre compagne se retrouve dans un procès pareil, c'est d'essayer de tout faire pour retarder la dernière audience, quoi, pour retarder la peine. Tout simplement parce que tant que votre, dans son cas, c'est son compagnon n'a pas fini le processus judiciaire, il est enfermé dans une prison à Moscou. Alors qui est pas terrible pour dire ça comme ça, et qui n'a rien à voir avec les prisons françaises, qui sont vraiment des conditions difficiles, mais qui ne sont pas les conditions des colonies pénitentiaires. Et puis c'est à Moscou, ça veut dire que vous pouvez faire des demandes pour essayer de le rencontrer, vous pouvez, elle, ça fait partie de son travail, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir payer, ça coûte très cher, de la nourriture en plus que lui peut ensuite aller acheter ou récupérer au sein de sa prison. Parce qu'en fait, quand vous êtes prisonnier en Russie, il y a une base de nourriture qu'on vous donne, mais qui est très très faible. Donc en gros, si vous voulez vraiment survivre, c'est quand même à vous de vous payer à manger à un moment. Et donc pour ça, il faut réussir à envoyer de l'argent sur au nom de la bonne prison. Donc tant qu'ils sont à Moscou, c'est faisable. Mais le jour où la personne est condamnée, eh bien, il y a un moment où il disparaît des radars pendant plusieurs jours, une semaine potentiellement. On se rappelle avec Navalny, il avait disparu une fois pendant 10 jours. Parce qu'il est tout simplement mis dans un train de nuit, dans un wagon prison de nuit, et il fait, il voyage dans tout le pays. Alors on m'a raconté récemment, je crois que c'est un avocat qui m'a raconté ça, qu'en fait les services pénitentiaires de la pénitentiaire gagnaient de l'argent à avoir ces prisonniers dans les trains. Et donc des fois ils font durer les voyages parce que ça permet d'avoir un peu plus de budget. Donc pendant des jours, ils sont dans des conditions terribles, dans ces wagons, sans fenêtres, nourris quasiment comme des chiens. Enfin, c'est assez terrible. Et puis un matin, ils réapparaissent dans une colonie pénitentiaire. On leur dit, voilà, votre mari, il est dans cette colonie-là. Généralement, c'est très loin de Moscou. Et alors là, il faut trouver très rapidement le bon compte en banque où envoyer l'argent, parce que ça peut prendre du temps à arriver. Donc ça veut dire que pendant 2-3 semaines, 1 mois, eh ben il aura pas forcément de brosse à dents, il aura pas forcément de dentifrice, il va lui manquer ce genre de produit ou de la nourriture. Donc c'est un contre-la-montre qui s'engage, qui est très compliqué. Ça coûte encore plus cher quand vous voulez envoyer de l'argent en plus dans une colonie pénitentiaire éloignée. Donc il y a ce côté-là très compliqué. Moi, sa femme, Alexandra, quand je l'ai vue la dernière fois, on a discuté un soir ensemble, et elle s'apprêtait à aller vers minuit, 1h du matin dans la prison, au niveau de la prison, parce que pour pouvoir avoir une chance de rencontrer le responsable de la prison, il fallait mettre son nom sur une liste qui est dans la rue. Et en fait, les femmes qui s'y prennent au dernier moment viennent déchirer la liste et en refont une autre où elles mettent leur prénom en première ligne, en gros. Donc elle allait surveiller ça toute la nuit pour être sûre de pouvoir rencontrer le représentant de la prison le lendemain. Donc il y a ce genre de choses. Et puis il y a cette situation qui nous ramène un peu au même statut qu'on avait décrit dans notre podcast sur les agents de l'étranger, où en fait, mine de rien, quand vous êtes femme de prisonnier politique, eh bien vous subissez la même image que lui obtient en étant prisonnier politique, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus trouver de travail. Beaucoup tous les métiers, notamment publics, les services publics vous sont totalement bouchés. Ouvrir des comptes en banque, c'est dur, voire impossible parfois. Donc vous êtes en quelque sorte un peu supprimé de la société. Donc vous vous retrouvez à devoir gagner votre vie avec des petits boulots à droite à gauche, plus ou moins légaux, plus ou moins officiels. Elle, Alexandra, a de la chance, on va dire, dans son malheur, parce qu'elle trouve du travail dans des ONG, les dernières ONG qui aident les prisonniers politiques. Donc elle survit de cette façon-là, et avec des appels aux dons, mais c'est un vrai travail au quotidien.
Une toute dernière question, en quelques mots, Paul. Est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Est-ce qu'on peut sortir de prison? Est-ce qu'on peut reprendre une vie normale? Parce que là, tu me décris un trou noir sans fin pour ces gens-là.
C'est une vraie question. En fait, depuis 2022, il y a eu beaucoup de peines 6 à 8 ans, on va dire, de prison. Et c'est une question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qui se passera donc dans maintenant 4 à 6 ans, quand ces peines arriveront à leur fin? Est-ce que tous ces prisonniers politiques seront vraiment libérés? En fait, on a du mal à le concevoir parce que on imagine que le régime sera encore plus dur, sera encore plus répressif dans quelques années. Et on imagine mal un régime comme celui qu'on a en ce moment, ben, libérer, redonner de la liberté à des gens qui avaient des activités politiques. Donc beaucoup craignent déjà, de toute façon, que leurs proches n'aillent pas au bout de leur peine parce que on prend pas soin de leur santé, on leur donne pas accès aux médecins. Donc il y en a, moi, c'est quasiment systématique quand je rencontre les proches des prisonniers politiques qui m'expliquent que l'urgence du moment, c'est réussir à faire entrer tel ou tel médicament en prison, mais que ça ne fonctionne pas, le responsable de la prison veut pas. En gros, c'est la première question qui se pose, et les problèmes de santé, enfin, ça arrive à tout le monde, hein, au bout de quelques mois dans ce genre de prison. Donc en fait, il y a ça, et puis il y a l'exemple de la Biélorussie, qui est encore un peu plus radical que la Russie pour tout ce qui est répression, et où eux, à la limite, assument presque plus le fait que ces gens-là ne retrouveront jamais leur liberté. Donc voilà, tu sais comment ça fonctionne en Russie, on peut toujours recréer des dossiers contre des gens au dernier moment, en disant « Ah oui, mais il y a 10 ans, il avait écrit ça sur les réseaux sociaux, donc on va lui rajouter une peine ». Et donc je crains que les choses se passent de cette façon-là. Alors l'objectif, Alexandra, donc la femme d'Artyom, elle essaie de faire parler de son cas. Elle était très contente que les diplomates étrangers soient venus au procès. Là, va bientôt se rendre en Occident, comme on dit en Russie, pour aller rencontrer des gouvernements, des représentants des gouvernements, pour faire connaître le cas de son mari. Et le dernier espoir, c'est un peu ce qui s'est passé cet été. Ce serait un échange de prisonniers politiques qui serait organisé par l'Ouest avec la Russie, mais c'est assez peu probable que ça se reproduise tout de suite.
C'est absolument effrayant ce que tu nous as raconté, Paul, mais ce que tu nous expliques aussi, c'est la nécessité de faire du bruit et de ne pas laisser tomber dans l'oubli ces prisonniers politiques, parce que l'oubli, c'est la peine de prison supplémentaire pour tous ces gens-là, qu'ils soient comme notre compatriote français, avec possiblement une aide consulaire ou simplement l'aide de la famille, de quelques roubles et d'ONG qui elles-mêmes subissent le tabassage médiatique, la pression du pouvoir russe. Merci beaucoup, Paul. C'était vraiment précieux, tes explications, et à très vite. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.